Salut à tous, vous êtes dans le Labomatique, l'émission de Radio Campus Rennes dédiée à l'actualité de la recherche scientifique. Au programme du Labomatique cette semaine, nous revenons sur la conférence donnée par Alain Pénicaud au Champ Libre dans le cadre de l'année de la cristallographie. Au mois de mars, le Labomatique vous avait proposé deux émissions consacrées à la cristallographie afin de comprendre ses différentes facettes. En cette fin d'année mondiale de la cristallographie, nous souhaitions revenir sur son histoire en compagnie du chimiste Alain Pénicaud. Alain Pénicaud est chercheur au centre de recherche Paul Pascal au sein de l'université Bordeaux 1 et chercheur au CNRS. Ses recherches actuelles semblent assez éloignées de la cristallographie car en effet, il travaille sur les nanosciences et notamment le graphite, le graphène et les nanotubes de carbone. Pourtant, il y a 15 ans de cela, il a rédigé un ouvrage de vulgarisation scientifique sur l'histoire de la cristallographie. Il nous a présenté sa démarche.
Alors, bon, tout d'abord, il s'agit d'une conférence qui est basée sur un livre de vulgarisation que j'avais écrit il y avait une quinzaine d'années. Donc, en fait, ce questionnement, je l'ai plutôt eu quand j'ai écrit ce livre. Et au départ, je voulais faire quelque chose d'assez général sur la cristallographie. Et de manière assez spontanée, c'est devenu quelque chose d'historique parce que je ne savais pas expliquer la cristallographie aujourd'hui sans dire d'où elle venait.
D'accord.
Donc, je me suis plongé sans même l'avoir prévu dans l'histoire de la cristallographie et ça devient du coup une histoire chronologique avec différents chapitres et puis des chapitres apparemment très distincts et qui finalement se retrouvent.
Se connectent les uns aux autres. D'accord, on disait en off qu'il y avait possibilité aussi de parler ce soir de philosophie des sciences. C'est une approche qui est historique, donc c'est pas centré seulement sur les enjeux proprement scientifiques de la cristallographie, c'est quelque chose de plus général. C'est une histoire des sciences aussi, de la pratique scientifique.
Alors effectivement, dès lors qu'on parle d'histoire des sciences, on parle du processus de découverte et comment s'opère ce processus de découverte. Et moi j'ai tendance à conseiller que les scientifiques c'est des aventuriers. Comment les découvertes arrivent? Ensuite, il y a des questions qu'on peut appeler philosophie des sciences, mais je dirais qu'ils sont plutôt très prosaïquement comment on fait de la science, sur le décalage entre une découverte scientifique et son utilité, que je mets entre guillemets, parce qu'on est d'abord nous sommes des gens qui créons du savoir, on agrandit la bibliothèque globale du savoir humain, et je ne suis pas prétentieux quand je dis ça, hein, c'est vraiment, on crée de la culture.
Bien sûr.
Mais il arrive que certaines de ces découvertes soient utiles. Il y a des exemples extrêmement classiques, la mécanique quantique, les transistors, etc. Et il y a des découvertes qui ont, dans cette conférence, j'ai parlé de découvertes qui en quelques semaines ont donné lieu à des applications. Quand, en sens inverse, quelquefois, ça va être 40 ans ou 50 ans. Et ces découvertes qui ont eu lieu, ces applications qui ont eu lieu en quelques semaines, étaient sur un domaine scientifique aucun donneur d'ordre ne voudrait financer.
L'objectif de la conférence d'Alain Pénicaud était donc de retracer un peu plus de 4 siècles d'histoire de la science afin de voir en quoi des découvertes a priori étrangères à la cristallographie moderne ont tout de même contribué à son émergence et à sa consolidation en tant que discipline à part entière. La cristallographie fait aujourd'hui l'objet d'un large engouement dans les domaines aussi variés que la médecine, la biologie, la chimie, la science des matériaux, la métallurgie, les nouvelles technologies de l'information et de la communication, et j'en passe. En tant qu'elle permet de comprendre la structure de la matière, la cristallographie peut être envisagée de façon transversale, c'est-à-dire comme un moyen pour d'autres scientifiques de comprendre leur objet. Mais au fait, qu'est-ce que c'est la cristallographie ? La cristallographie est la science des formes, des structures et des propriétés des cristaux. Le cristal est un solide à structure constituée d'atomes ordonnés dans un réseau périodique et même tripériodique et symétrique. Il a des propriétés de symétrie avec des axes de rotation directe et inverse, des miroirs, des plans et des centres de symétrie. Pour la majeure partie d'entre nous, il s'agit là d'un jargon scientifique vague, voire totalement inconnu. Pourtant, il y a des notions à aborder qu'une histoire de la cristallographie permet de replacer dans leur contexte. Au XVIIe siècle, les naturalistes ont contribué à l'émergence des premiers concepts et bases de la cristallographie moderne, en s'intéressant à la forme des cristaux et notamment leur régularité. L'invention des microscopes aura été une étape fondamentale pour le développement des premières théories sur les cristaux.
Et donc ici, il y a Monsieur Escher, qui donc lui n'est pas du tout un scientifique, mais que vous connaissiez tous pour ses dessins sur la symétrie, etc. Ben lui, il invente un peu la préhistoire de la cristallographie. Et il dit un jour, il y a un homme des cavernes qui a donné un coup de hache sur une pierre, elle s'est ouverte en deux, et il s'est émerveillé de la beauté des cristaux. Voilà, donc 17e, 18e siècle, les naturalistes. Donc les naturalistes, ce n'était pas seulement en cristallographie, il y en a beaucoup à la description du monde animal, du monde végétal. Donc c'était des gens qui observaient le monde autour d'eux et essayaient d'en tirer des conclusions. Donc en fait, pour les cristaux, tout commence avec la découverte des microscopes, avec l'invention des microscopes, parce que bien sûr qu'à l'œil nu, on ne pouvait pas aller très loin. Il n'y a pas d'inventeur précis, connu, répertorié, je dirais, des microscopes. Par contre, il y a M. Van Leeuwenhoek, en Hollande, qui était un fabricant de microscopes, en même temps qu'il faisait aussi des observations au microscope. Et il en faisait de telle qualité qu'on a un peu tendance à considérer que les microscopes, ça a commencé avec lui.
Ces cailloux qui ont des formes extrêmement géométriques, et plus on les examine, plus on se rend compte qu'il y a des caractères récurrents dans ces formes, des constances, des angles par exemple, etc., qui permettent de dire qu'il y a quelque chose de particulier dans l'organisation ici. Donc il fallait des microscopes pour aller voir un petit peu plus loin. Donc, et c'est extraordinaire de voir les concepts auxquels sont arrivés les naturalistes. Ça s'est terminé avec l'abbé Haoui, le frère du Haoui de la Fondation des Aveugles. L'abbé Haoui, donc, qui est arrivé au concept qu'on appellerait aujourd'hui, en sciences modernes, une cellule élémentaire. Et lui, il est arrivé qu'il y avait un petit solide, minuscule, qui est répété dans toutes les directions de l'espace, donnait le cristal moderne. Et simplement, avec l'observation dans un microscope, et puis quelques mesures quand même, avec ce qu'on va appeler un goniomètre, et je montrerai des exemples dans la conférence.
C'est une énigme. Vous avez ce petit bout de caillou. D'abord, il a des faces extrêmement planes. Et puis, si vous commencez à regarder un peu plus loin, et si vous cassez un cristal pour voir comment vous le cassez, bah, vous vous rendez compte qu'il se casse en formant une autre surface extrêmement plane. Et c'est ces petites images, si vous voulez. Quand on casse un cristal, on obtient un autre cristal qui a la même forme globale que le premier, et ainsi de suite, jusqu'à qu'on puisse plus rien observer, tellement le cristal est petit. Donc ça continue avec M. Lomonosov en Russie et Jean-Baptiste Romé de Lille. Et puis là, il y a le premier appareil scientifique qui a servi à l'étude des cristaux, c'est le goniomètre. Et un goniomètre, ça sert à mesurer des angles. Un angle, et les scientifiques étaient comme ça capables de mesurer les angles sur un cristal. Ils ont remarqué que dans une famille donnée, les angles entre les faces étaient constants. Prenez un cristal ou un autre, les angles entre les faces étaient exactement les mêmes dès lors que ces deux cristaux appartenaient à la même famille. L'abbé Haoui, il a construit un système de pensée des cristaux basé sur les découvertes de toutes les personnes que je vous ai citées avant, et en particulier donc sur la loi de constance des angles, et sur cette autre loi qu'il appelait comme ça, qui est un nom un peu barbare, la loi des troncatures rationnelles. Et les cristallographes modernes connaissent ça très très bien, parce qu'on les utilise tous les jours en cristallographie. Mais à l'époque, on n'avait aucun autre moyen que ces mesures des angles. Et donc, Haoui en arrive à dire que tout cristal est formé par un empilement tridimensionnel de molécules intégrantes, les plus petits solides que l'on puisse extraire du minéral sans altérer sa nature. C'est-à-dire, en gros, il imagine qu'il coupe le cristal jusqu'au plus petit morceau possible. Et ce petit morceau, qui est un morceau unitaire, si vous voulez, s'il le répète dans les trois directions de l'espace, il va obtenir le cristal macroscopique. Aujourd'hui, un scientifique moderne, il appelle ça une maille élémentaire. Et encore une fois, c'est un concept qu'on utilise tous les jours. Mais maintenant, on a les outils pour aller voir à l'intérieur de la matière que n'avait pas Haoui. Et donc, je trouve que c'est une belle intuition, un bon raisonnement. Donc là, on arrive au début 19e, je dirais. Ah oui, ça se finit, oui, dans les débuts des années 1800.
Là, vous nous dressez déjà donc deux siècles de recherche, voilà. 17e, 18e, voilà. On arrive au 19e siècle tranquillement.
Voilà. Et donc le 19e, en ce qui concerne la cristallographie, ça va être des développements mathématiques qui, a priori, n'avaient rien à voir avec la cristallographie. C'est des mathématiciens qui ont développé des manières de définir, de décrire des réseaux. Des réseaux, c'est-à-dire des ensembles d'objets disposés de manière régulière. Et il y a entre autres un mathématicien français, c'est Auguste Bravais, qui était professeur à l'École Polytechnique, et un grand nom de la cristallographie. Bravais est mort avant de savoir que c'est 50 ans plus tard que ça a été appliqué en cristallographie. Voilà, donc le 19e siècle, je dirais, c'est plutôt des mathématiques,
d'accord.
Voilà, avec des notions de symétrie. Un réseau qu'on appelle donc un réseau périodique, ça veut dire où on a un arrangement régulier. Si je veux décrire un système de points comme celui-ci, ben je vais pas essayer, ça va être très fastidieux si je dois décrire la position de chacun de ces points. C'est beaucoup plus facile de dire, de donner la valeur de ce vecteur ici que je vais appeler petit a, et qui me permet à partir de celui-là, si je donne cette information à un collègue, il est capable de connaître l'arrangement de tous ces points. Je peux ensuite faire ça à deux directions, où j'aurai ici deux vecteurs et un angle, ou ici à trois directions, où j'aurai trois vecteurs et trois angles. Voilà. Donc à partir de ça, on peut classer des modes de réseau, des systèmes de réseau qui permettent de décrire des systèmes de points. Et là, on est dans des pures mathématiques, et qu'on appelle en fonction de leur symétrie, orthorhombique, cubique, hexagonale, etc. Et en cristallographie, régulièrement, on va utiliser ce genre de notion pour ne pas avoir à décrire tout l'objet. On décrit le minimum possible et par symétrie, on peut redécrire l'ensemble.
Avez-vous déjà entendu parler d'Évariste Galois ? Il s'agit d'un mathématicien du début du 19e siècle mort très jeune, à l'âge de 20 ans. Évariste Galois a contribué malgré lui à l'émergence de la cristallographie par l'apport de ses théories mathématiques.
En physique, quand on utilise la symétrie, on a besoin de notions qui s'appellent la théorie des groupes. La théorie des groupes, c'est quelque chose qui a été écrit et qui a commencé à être conçu par M. Évariste Galois, mathématicien prodige, qui est mort très très jeune, comme vous pouvez voir, à l'âge de 21 ans. Voilà. Mais il a déjà eu le temps d'écrire les bases de la théorie des groupes, qui a été redécouverte une cinquantaine d'années plus tard par d'autres mathématiciens qui ont formalisé les découvertes d'Évariste Galois. C'est l'ensemble des entités naturelles munies de la loi d'addition. Et si je l'utilise, c'est juste une excuse pour faire une petite diversion en littérature. Elle est rencontrer les membres de l'Oulipo, l'ouvroir de littérature potentielle, et en particulier M. Queneau, qui a fait une transformation à partir d'un texte. Il a fait une transformation qu'on appelle S plus 7 d'un texte, où il prend chaque substantif et le transforme par l'occurrence, enfin la septième occurrence, enfin le mot qu'il retrouve cette position plus loin dans le dictionnaire. Et je pourrais vous démontrer que l'ensemble des textes obtenus de cette manière, munis de la loi S plus N, forment un groupe. Alors je vais vous le dire, ce texte, et vous allez le reconnaître tout de suite à la musique des mots. La simèse est la fraction. La simèse, ayant chaponné tous les terneurs, se tuba fort dépurative quand Balabizaxé fut verdi. Pas un sexué pétrographique morio, de moufette ou de véra. Elle alla crocher franche chez la fraction sa volcanique, la processionnant de lui primer quelques gramènes pour succomber jusqu'à la salanque nucléaire. « Je vous peinerai, lui discorda-t-elle. »« Ah !» Je la savais par cœur. « Je vous peinerai, lui discorda-t-elle, avant la namite interlocutoire et priodonte. » La fraction n'est pas prévisible. C'est là son moléculaire défi. « Que feriez-vous au tendon cher ?» discorda-t-elle à cette énarthrose. « D'incubation et joyaux à tout vendeur, je chaponnais, ne vous déploie. »« Vous chaponniez, j'en suis fort alarmante. Eh bien, débagoulez maintenant. »
Thank you.
avançant encore un peu dans le 19e siècle, on peut rencontrer Louis Pasteur et Wilhelm Röntgen, qui ont tous deux contribué à l'affirmation disciplinaire de la cristallographie. Le premier s'attacha à comprendre la notion de chiralité, essentielle en cristallographie si elle est mise en parallèle avec la compréhension de la polarisation de la lumière. Le second, Wilhelm Röntgen, découvrit par hasard les rayons X, découverte scientifique majeure dont les applications furent presque immédiates.
Alors, nous arrivons à Monsieur Pasteur. Alors, Pasteur, il est impossible à résumer, cet homme. Il a commencé tout jeune avec la découverte de la chiralité. Donc, la chiralité. Vous voyez, ici, vous avez un texte d'Emmanuel Kant. Vous voyez, que peut-il y avoir de plus semblable, de plus égal en tout point à ma main ou à mon oreille que leur image dans le miroir ? Exactement la même chose. Et pourtant, comme Kant le remarque, je ne puis substituer à son modèle la main telle qu'elle est vue dans le miroir. Car si c'était une main droite, l'autre dans le miroir est une main gauche. Voilà. Vrai problème de philosophie sur cette identité, cette similarité qui n'est pas reproductible. Pour aller plus loin, je vais avoir besoin de vous parler de lumière polarisée. Donc on va imaginer qu'on a une corde qu'on fait vibrer, qu'il y a deux personnes qui font vibrer une corde. Et cette corde, comme ça, on pourrait la faire vibrer dans toutes les directions de l'espace. Puis si j'oblige ces deux personnages à faire vibrer la corde juste entre cet arbre et le tronc d'arbre, bah, du coup la corde on ne peut plus la faire vibrer que dans la position verticale, sinon elle se cognerait contre le tronc d'arbre. Et bah, si la corde c'est une analogie pour la lumière, ici on a de la lumière non polarisée qui peut vibrer dans tous les plans possibles, et ici on a une lumière polarisée. Et après on parle de rotation du plan de polarisation de la lumière, c'est ce plan qu'on fait tourner vers la droite ou vers la gauche. Voilà. Et alors qu'est-ce qu'on savait à l'époque de Pasteur ? On savait qu'on avait de la polarisation, donc cette rotation du plan de polarisation de la lumière, due au quartz cristallin et aussi à l'acide tartrique. On savait qu'il existait des cristaux de quartz lévogyre et dextrogyre, donc qui font tourner vers la gauche ou vers la droite. Et on savait aussi qu'il y avait un acide qu'on appelait paratartrique qui était inactif, c'est-à-dire qui n'avait aucune action sur la lumière, alors que l'acide tartrique polarisait la lumière. Et ça, pour un chimiste, c'est un vrai problème. Parce que si vous avez la même substance et qu'elle n'a pas les mêmes propriétés, c'est qu'il y a un problème, c'est que ce n'est pas la même substance. Donc Pasteur, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a pris les cristaux de l'acide paratartrique, celui qui était considéré, enfin celui qui n'agissait pas sur la lumière, et puis il les a observés sous un microscope. Et en fait, il s'est rendu compte qu'il y avait une petite face qui faisait que c'était justement comme une image dans un miroir et que les deux cristaux n'étaient pas équivalents. Donc il les a séparés avec une petite pince, il a mis tous les gauches d'un côté, tous les droits de l'autre, il les a dissous dans une solution, et puis il a fait passer les rayons de lumière. Il y a une solution qui polarisait vers la droite, l'autre solution qui polarisait vers la gauche. Donc il avait bien la même molécule, mais une main droite et une main gauche, et c'était la notion de chiralité. Et Pasteur, en esprit préparé, justement, ne se trompe pas sur les conséquences de sa découverte. Il dit « La vie doit être fonction de la dissymétrie de l'univers ». L'univers est dissymétrique, on placerait devant une glace l'ensemble des corps qui composent le système solaire, on aurait dans la glace une image non superposable à la réalité. Voilà. Et ça, c'était, on ne connaissait pas encore tous les acides aminés, les lévogyres, etc. Et donc cette histoire de symétrie a culminé, je dirais, à la fin du 19e siècle, avec un objet mathématique qu'on appelle les groupes spatiaux, et qui permettent de décrire la structure de n'importe quel cristal sur la surface terrestre. Alors, 1895, et la découverte des rayons X. Monsieur Röntgen, par exemple, lui, son programme de recherche disait qu'il s'intéressait à des rayonnements invisibles de haute énergie. Et justement, dans le cas de Röntgen, c'est le cas complètement atypique de découvertes qui ont été appliquées en quelques mois après sa découverte. Alors vous imaginez, on est en Allemagne, en novembre, à peu près en cette saison, 1895. Donc on est dans l'après-midi, il fait déjà sombre, Röntgen, bon, c'était un monsieur à l'université. C'était plus un petit gamin, il avait 50 ans. Il était doyen de l'université, il avait son laboratoire dans sa maison. Donc, des conditions assez favorables. Et donc, il est en train de travailler dans son laboratoire et il travaille sur ce qu'on appellerait aujourd'hui un tube cathodique. C'est-à-dire un tube dans lequel il y a deux électrodes, dans lequel on mettait un voltage, si vous voulez, entre ces deux électrodes. Et donc, il y a des électrons qui sont expulsés de l'une des électrodes et qui vont impacter le verre. Et donc, Röntgen, il s'intéressait, comme beaucoup de physiciens de la fin du 19e siècle, à analyser ce qu'étaient ces rayons cathodiques. Alors, ces rayons cathodiques, nous, on les connaît bien, c'est les électrons. Et c'est ce qu'il y avait, on les avait vus dans les télévisions qu'on avait avant les écrans plats. On avait donc ce gros ventre qui était derrière la télé et qui était donc le tube cathodique. Et donc, Röntgen, il fait ses expériences. Puis il a même mis un cache sur son tube. Et puis, du coin de l'œil, il a un écran qui est plus loin sur la table qu'un écran à une certaine composition chimique qui est fluorescent, voilà, qui peut fluorescer. Et puis, il s'aperçoit que c'est bizarre parce que les rayons cathodiques, c'est très bien qu'ils s'arrêtent près quelques centimètres dans l'air. L'écran, il est 2 mètres plus loin. Et il s'aperçoit que l'écran, il fluoresce quand le tube... l'écran fluoresce. Donc, il éteint le tube. La fluorescence disparaît. Il le rallume, ça réapparaît. Scientifique, hein, donc il fait des expériences. Il met un bout de papier et il voit que ça passe à travers. Un bout de carton, ça passe à travers. Il met un bout de bois, il en reste encore. C'est atténué, mais il en reste encore. Il met un morceau de métal, tout est arrêté. Et puis à un moment, il met sa main et puis là, ce qu'il voit, c'est l'ombre de ses os sur l'écran. Et les rayons X sont plus absorbés par le calcium qui est dans les os que par les éléments qui sont dans la peau. Et donc, on voit une ombre plus marquée pour les os que pour le reste de la main. Donc, quand je vous ai parlé de cette expérience au mois de novembre, et vous voyez, 28 décembre 1895, Röntgen publie son article qu'il appelle « Neuen Art von Strahlen, un nouveau type de radiation ». Et comme ça, mais il ne savait toujours pas ce que c'était. Donc il les appelait les rayons X. Et dans le monde entier, c'est resté les rayons X, sauf en Allemagne, on les appelle Röntgenstrahlen, les rayons Röntgen. Voilà. Et donc ça, c'est une photo de rayons X, de la main de Madame Röntgen. Et alors, 1901, il a reçu le premier prix Nobel de physique. La cristallographie a donné lieu à plus d'une vingtaine de prix Nobel au cours du XXe siècle. Donc c'est quelque chose d'assez conséquent. Et Röntgen, il reçoit le premier, et il faut savoir que c'était une compétition très élevée. À l'époque, il devait y avoir 11 pressentis, ou 13 pressentis, je crois, et des 13 pressentis, il y en a 11 qui l'ont eu dans les années qui ont suivi. Et maintenant, on va parler de la découverte de la diffraction des rayons X. Alors, j'ai mis la pièce, parce que c'est comme les tragédies grecques, avec unité de lieu, unité de temps. Tout s'est passé très très vite et au même endroit. Alors la scène, c'est l'université de Munich et les acteurs, c'est M. Sommerfeld qui était le directeur d'un institut de physique théorique. Et donc dans cet institut, il y a donc Max von Laue, c'est lui qui a théorisé donc, la diffraction des rayons X, Friedrich et Nipping qui ont fait les expériences elles-mêmes de diffraction des rayons X. Et messieurs Ewald et Debye, qui étaient des étudiants à l'époque. Et puis, enfin, non, ils sont dans tous les bouquins de physique moderne. Et il y avait aussi monsieur Röntgen, qui était auparavant à l'université de Würzburg quand il avait découvert les rayons X, et qui maintenant avait été promu à Munich. Et monsieur von Gross était un cristallographe, un minéralogiste, on va dire, qui connaissait beaucoup de familles de cristaux, et qui avait, dit-on, une influence au moins culturelle sur tous ses collègues. Alors le prologue, qu'est-ce qu'on savait à l'époque? Alors il faut qu'on se rappelle qu'on est au début du XXe siècle, à une époque, pour ceux d'entre vous qui ont une culture scientifique, ou même beaucoup de gens d'ailleurs, le problème de la dualité onde-particule. C'est-à-dire, est-ce que la lumière, ce sont des ondes, ou est-ce que la lumière, ce sont des particules? Et bah, ce questionnement, il était le même pour les rayons X. Donc on avait découvert que les rayons X étaient polarisables, comme la lumière. On avait découvert qu'ils avaient une longueur d'onde qui était de l'ordre de 0,6 angstrom. Alors un angstrom, c'est une unité bien sûr toute petite, qui correspond à un dixième d'un milliardième de mètre. Voilà, 10 puissance moins 10 mètres, si vous voulez. On pensait que c'était peut-être des ondes, parce qu'on pouvait les diffracter par une grille, les dévier par une grille. Mais on pensait aussi que c'était peut-être des particules, parce qu'on pouvait ioniser l'air avec des rayons X. Et c'est très intéressant de voir que la théorie des rayons X comme particules, c'est M. Bragg, William Henry Bragg, qui l'a découvert. Et ce sera l'un de ceux après qui utilisera le caractère d'onde des rayons X avec son fils pour résoudre les premières structures cristallines. Donc la scène 1, on est dans le salon de l'appartement de Max von Laue, et on a Paul Ewald qui est en train de rédiger son manuscrit de thèse, et puis donc il va voir son collègue plus âgé, il a des questions à lui poser, hein, et lui demande les propriétés optiques d'un réseau d'atomes. Alors Laue, sa première question, c'est quoi la distance entre deux atomes? C'est à peu près un millième de la longueur d'onde visible. Donc, Max von Laue, il se dit... rayons X, c'est un millième de la longueur d'onde visible. Longueur d'onde visible, on est dans les microns à peu près. Donc ça veut dire qu'on est à peu près... Il est en train de parler d'angstrom là aussi. Donc Max von Laue tout de suite lui dit « Et si on irradiait un cristal avec des rayons X ?» Et ils sont tous là à discuter de cette hypothèse. Ils disent « C'est même pas la peine d'essayer, ça va pas marcher. » Parce que les atomes, ça vibre. Donc il n'y a pas de réseau. Donc, ça ne va jamais diffracter. Si vous voulez, on savait que la lumière, on peut la diffracter avec une grille, avec quelque chose qui est bien ordonné. Donc, les rayons X, il faudrait que tous les atomes soient bien en position, bien en place. Et donc là, ben, en particulier, il y avait Nipping, qui était étudiant chez Röntgen. Et puis, il dit, mais moi, je vais aider, je veux bien prendre du temps pour ça, ce n'est pas grave, comme ça, vous ne perdrez pas trop de temps, je veux bien le faire. Alors en fait, ça, je vous en ai déjà parlé. Hein. L'expérience, elle se passe dans un institut de physique théorique dans lequel on fait des manips. Et Nipping, lui, venait de l'institut de Röntgen, qui était encore un autre institut à côté. Et tout ça, c'est le fruit de discussions dans un café où les gens se mélangent. Et on a ici le laboratoire de Friedrich qui ne devait pas perdre son temps à faire une manip qui n'allait pas marcher, et que Nipping l'a proposé de l'aider. Donc, le rideau tombe, c'est-à-dire que les rayons X sont des ondes, comme la lumière, et les cristaux sont bien des réseaux tridimensionnels. Voilà. Et donc Max von Laue a reçu le prix Nobel 1914, pour ça, qu'il a reçu en 1920, après la Première Guerre mondiale. Ensuite, on traverse la Manche pour aller en Angleterre avec William Bragg père et William Bragg fils. Alors en fait, Laue, il avait une explication assez compliquée pour la diffraction des rayons X. Et Bragg, fils, il avait une vision beaucoup plus simple du phénomène et qui lui a permis d'avancer très très vite sur le sujet. Et donc, Bragg, c'est celui qui avait montré que les rayons X étaient des particules. Et donc après, il a utilisé le fait que les rayons X étaient des ondes. Voilà. Et c'était encore une époque où on n'avait pas encore résolu le problème de la dualité onde-particule, et on avait conceptualisé qu'une onde, c'était une particule, et une particule, c'était une onde. Ça viendra plus tard, un petit peu plus tard en physique. Bragg, en fait, il fait un petit modèle tout simple où il dit que la diffraction des rayons X, c'est comme une réflexion sur des plans. Vous avez des rayons X qui arrivent sur des plans formés par les atomes, et ils sont réfléchis avec un angle, et c'est comme de la lumière qui est réfléchie par un miroir. Donc la loi de Bragg, qui relie la longueur d'onde, la distance entre les plans cristallins et l'angle. Donc, ce qui veut dire que si je change de longueur d'onde, je change d'angle. Donc, si on avait de la lumière, c'est quelque chose, ça serait comme un miroir qui trierait les couleurs. C'est-à-dire qu'en fonction, c'est une couleur pour la lumière visible, hein, une couleur c'est une énergie, donc les couleurs ne seraient pas réfléchies avec le même angle. Parce que là, je vous ai parlé des prémices de la cristallographie. Et puis là, on arrive tout de suite dans les années 50 avec la découverte de la structure de l'acide désoxyribonucléique, ou dit ADN, voyez, qui a été obtenu par cristallographie, par diffraction des rayons X sur l'ADN. Et là aussi, il y a une intuition, de même que Pasteur. Il y a une intuition, vous voyez, ça c'est la dernière phrase de leur article. Il n'a pas échappé à notre attention que l'appareillement spécifique que nous avons postulé suggère immédiatement un mécanisme de recopiage possible pour le matériel génétique. Et ben, c'est simple, ils avaient vu les deux hélices, ils disaient ben, l'une peut servir de modèle pour recopier l'autre. Voilà. Donc une certaine vision de la génétique n'avait pas encore commencé.
Sans que nous en ayons forcément conscience, la cristallographie est désormais omniprésente dans nos vies quotidiennes. Mais quel rôle a-t-elle à jouer dans les futures innovations ? Et de quelles innovations parle-t-on ?
Aujourd'hui, c'est presque un outil, c'est un outil indispensable, qui est transversal dans quasiment, enfin dans énormément de disciplines, qui est presque devenu pour certains un appareil de routine. Quand moi j'ai fait de la cristallographie quand j'étais étudiant, c'était un appareil de routine pour moi, comme vous avez entendu parler d'imagerie par résonance magnétique. En science, il y a des chercheurs en résonance magnétique nucléaire, en même temps que dans des hôpitaux, il y a des appareils d'IRM, et dans les laboratoires de chimie, on a des appareils de résonance magnétique nucléaire qui nous permettent d'analyser les molécules qu'on synthétise dans un laboratoire. Ben pareil, plein de laboratoires, il y a des diffractomètres, pour lesquels un chimiste qui vient de faire une nouvelle molécule, un nouveau cristal, il le met sur le diffractomètre pour obtenir la structure et pour savoir quelle est la structure de sa molécule. C'est vrai dans les laboratoires, c'est vrai aussi dans l'industrie, pour tout ce qui est l'industrie des médicaments, c'est vrai aussi pour tout ce qui est la médecine, l'identification de protéines. On fait des cristaux de protéines pour diffracter les rayons X dessus et obtenir la structure de ces protéines et avoir plus d'informations sur des éléments responsables de maladies. Ou au contraire, voir quel va être le site actif sur lequel il faut synthétiser un médicament qui puisse aller agir sur ce site actif. Voilà, donc il y a encore certainement beaucoup d'autres choses que j'oublie.
Nous remercions chaleureusement l'Espace des sciences des champs libres de nous avoir accueillis à la conférence d'Alain Pénicaud. Sachez qu'ils vous proposent la vidéo complète de la conférence sur leur site www.espace-science.org. C'était le Labomatique, l'émission de Radio Campus Rennes dédiée à l'actualité de la recherche scientifique. Vous pouvez retrouver le podcast de l'émission sur www.radiocampusrennes.fr.